Bonjour, bienvenue dans notre 39e émission et aujourd'hui nous allons parler de Goya, Francisco, peut-être le plus grand peintre qui a existé. Durant ces mois qui arrivent, vous allez peut-être partir en Espagne, à Madrid, à Tolède, à Séville, à Valence, à Valladolid, à Saragosse. Et là, renseignez-vous, allez dans les musées, rentrez dans les églises et vous trouverez de magnifiques tableaux de Francisco Goya. Alors Francisco Goya, on a un autoportrait de 1775, une huile sur toile, qui correspond à son arrivée à Madrid. Il a les cheveux mi-longs, un style assez réaliste, mais regardez cet autoportrait. Il est né en mai 1746 dans un village du nord de l'Espagne, à Fuente Todos, près de Saragosse. Il est fils d'un maître d'horreur. Et sa mère s'appelle Ignacia, ses parents habitent à Saragosse. C'est un milieu très modeste, pauvre, mais non misérable, appartenance du côté de sa mère à une aristocratie pauvre, déclassée. Élevé dans un climat de manque, de soucis financiers, c'est quelqu'un qui toute sa vie sera intéressé par l'argent. Alors, comment se présente l'Espagne à cette période? L'Espagne, c'est un monde de paysans, paysannerie superstitieuse, très rattaché à l'Église catholique, mais il existe des portes ouvertes à la liberté, comme en France, et ces auteurs de projets de réforme s'appellent les Ilustrados. Ce sont les Lumières espagnoles qui ont une volonté de réforme. Et Goya appartient à ce milieu des Ilustrados. L'Espagne, à cette période, on peut dire, c'est une civilisation de la mort. Beaucoup de famines, mortalité infantile très importante, 3 enfants sur 4 avant 1 an, et beaucoup de maladies. Goya lui-même aura 7 enfants, un seul survivra. C'est une société, à cette époque, qui est violente, société de misère. On parlera même d'Espagne noire, pays noir sur le plan politique et sur le plan religieux. On peut parler d'obscurantisme, mais avec des nobles très riches et une monarchie. Goya n'est pas un révolutionnaire, mais il n'est pas non plus républicain. En 1750-59, il revient à Saragosse. Il rentre dans une école religieuse fondée par Saint Joseph de Calazan. Goya est un élève moyen, ce n'est pas un fin lettré, mais il est curieux, il aime apprendre, il se fait lui-même parler fort, mais ce n'est pas un génie. Un caractère colérique, quelque peu grossier, orgueilleux, querelleur, il est trapu, macho. Sa passion, c'est la chasse, la corrida, le vin. Donc un côté populaire, il le restera malgré sa réussite s'il reste un enfant du peuple. 1750-1759, c'est un ami intime de Martin Zapater, qui est un riche marchand et mécène des arts. Ils se connaissent depuis l'enfance et ils vont avoir une énorme correspondance, 132 lettres entre eux. En 59-63, il est apprenti dans l'atelier de José Luzon, il a 13 ans, il apprend les rudiments de l'art avec les gravures et dans cet atelier, il rencontre un ami, Ramón Bayeux. Rencontre clé car ce Ramón est le frère de Francisco Bayeux, qui est un personnage clé dans la carrière de Goya. C'est un peintre qui monte en puissance, qui est reconnu, c'est un grand peintre du moment en Espagne, mais c'est un peintre académique. Et Goya épousera sa sœur Josefa. Il rentre ainsi dans le clan Bayeux pour faire carrière. En 1764, Goya participe avec succès au concours pour une bourse à l'Académie de Madrid, mais c'est un échec. C'est l'Académie de San Fernando, école des beaux-arts, créée à l'image des Français. En 1766, deuxième tentative, deuxième échec, il a 20 ans. Bayeux loge alors à Madrid à la demande du peintre Rafael Mengs, qui est un peintre académique, et en 1766, c'est une révolte populaire à Madrid, la révolte contre Esquilache, qui est un ministre du roi Charles III. Révolte de la faim, on retrouve les curés proches du peuple, et en 1770-1771, Goya est un échec. Et il va partir en voyage en Italie. Il est recommandé par ce fameux peintre Mengs et il rencontre à Rome le peintre Piranèse. Il voit les peintures italiennes, il fait des peintures néoclassiques, il tient un cahier de copies, il va s'imprégner des valeurs du néoclassicisme, il va vouloir participer à un concours à l'Académie des Beaux-Arts de Parme en 1771. Pas de prix, son tableau, je cite « Hannibal vainqueur considérant l'Italie des Alpes », ne gagne pas le concours, mais reçoit les félicitations du jury. C'est une première appréciation. Et le jury dira « On y a observé avec plaisir un maniement aisé du pinceau, une chaleur d'expression dans le visage d'Hannibal et un caractère de grandeur dans son attitude. Le jury aussi dira « un maniement aisé du pinceau, touche libre, enlevé, actif ». Goya revient à Saragosse auréolé de sa mention d'honneur et là, il va avoir de nombreuses commandes religieuses. L'œuvre de Goya est très importante, mais une des parties de ses œuvres, on va les étudier de manière successive. Là, aujourd'hui, nous allons parler des peintures religieuses qu'il pratiquera durant toute sa vie. Il commence par la peinture religieuse, une production religieuse de toute une carrière, sur toile, murale et en fresque. C'est une volonté de l'État espagnol de décorer les monuments religieux, politiques de l'État et de l'Église, effort d'embellissement des édifices religieux, d'où le rôle du poids des commanditaires. Donc il revient en Italie, il intervient dans l'embellissement de Notre-Dame de Pilar à Saragosse, avec une première fresque, Adoration du nom de Jésus, de 12 mètres de long, peinture baroque, une maîtrise très importante du baroque, et en 81-82, toujours à Saragosse, à la basilique du Pilar, une coupole Regina Martinero. C'est une Vierge Marie au milieu des nuages, entourée d'anges. Bayeux gardera une partie de la décoration de cette église, gardera deux coupoles, mais la peinture de Goya fait polémique, son style n'est pas apprécié, style jugé trop libre, jugé inachevé, c'est-à-dire non moderne, non néoclassique. Ce qui ne passe pas, ce sont les pendentifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pendentif ? C'est un procédé de construction permettant d'asseoir une coupole sur un plan carré en rachetant les angles de ce carré. Donc c'est un triangle incurvé dont la pointe va à l'angle du carré et qui s'évase pour assurer la forme parfaitement circulaire sous laquelle s'établit la coupole. Les esquisses des pendentifs sont refusées, Goya refuse les corrections, conflit de caractère avec son beau-frère Bayeux. En 1773-75, il fera un tableau « La vie de la Vierge », 11 fresques, 7 sont conservées, avec une technique murale très maîtrisée sur un enduit frais à la chartreuse d'Ola Dei à Saragosse. Si vous allez à Saragosse, je vous invite à aller visiter cette chartreuse. En 1780, un magnifique Christ en croix, qui est une île sur toile, conservé au Prado à Madrid. Donc on voit que Goya rebondit. En 1781-1784, avec une décoration, une peinture, Saint Bernardin de Sienne, prêchant en présence du roi et de ses courtisans pour l'embellissement de l'église San Bernardo, El Grande à Madrid. Et là, il devient un peintre très apprécié. En 1785, un tableau, l'Annonciation. En 87, la mort de Saint-Joseph au couvent royal de Sainte-Anne à Valladolid. Et en 1787-1788, Saint-François faisant ses adieux à sa famille, qui est une mille sur toile, et Saint-François Borgia et le moribond impénitent. Allez les voir, c'est merveilleux. Chapelle Saint-François de Borgia à la cathédrale de Valence. Un autre sujet, Saint-Amboise, qui est conservé au musée de Cleveland. Et enfin, un chef-d'œuvre, 1798, chef-d'œuvre de Goya dans la peinture religieuse, le miracle de Saint-Antoine de Padoue. À l'ermitage de Sant'Antonio de la Florida, à Madrid, fresque de la coupole, 5,5 mètres de diamètre, abside corniche, changement donc dans l'art religieux. Goya est à l'apogée de sa carrière, ses amis politiques, les Ilustrados, sont au pouvoir, et là, la coupole de cet ermitage, donc la peinture, le miracle de Saint-Antoine de Padoue, Saint-Antoine ressuscite un mort pour sauver son père, accusé de meurtre. Innovation, il n'y a pas d'élévation, il renvoie vers le bas, vers la balustrade. La religion est très proche du peuple, tableau de la société madrilène avec des gens du peuple, bourgeois, aristocrates. Et ce qui est intéressant, on voit des enfants qui cherchent à enjamber la rambarde. Donc vous voyez qu'une peinture en trompe l'œil. Goya est enterré dans cette église, dans cet ermitage. Il repose sous la coupole. Là, il reçoit un accueil extrêmement favorable. Décoration aussi peinture à la cathédrale de Tolède avec l'arrestation du Christ. Là, Goya va se mesurer au Gréco. Il y a dans cette cathédrale plusieurs tableaux de Gréco et il va bien sûr faire son œuvre sur l'arrestation du Christ. Peinture pour la sacristie de la cathédrale de Séville, intitulée « Les Saintes Justes et Rufines ». Et en 1819, la dernière commande, Saint-Joseph de Calazan, école Pie d'Espagne à Madrid. Donc on voit que les peintures religieuses de Goya sont une des différentes facettes de son œuvre. Un critique d'art dira à Todorov la pensée puissante de cet artiste de génie. Un des plus grands maîtres de l'histoire de l'art espagnol. Et après les peintures religieuses, nous verrons les fameux cotons de tapisserie, les peintures d'histoire, donc la tresse maillot, ou peintures et les peintures noires, les portraits, les scènes de genre, les carnets à dessin et les séries de gravures comme les caprices, le désastre de la guerre. Et je me souviens de mon professeur, le professeur Mange, professeur d'histoire de l'art à l'université de Toulouse, qui m'avait confié un jour, me disant « Goya, c'est le plus grand peintre qui ait jamais existé ». Je vous remercie. Donc la semaine prochaine, nous parlerons des cartons. Je vous dirai ce que c'est les cartons, mais déjà, allez sur Internet, voyez les cartons pour les tapisseries de Goya. Regardez aussi les peintures d'histoire, comme les tresses maillots. Regardez les scènes de genre, et puis nous en parlerons la prochaine fois. Bonne journée.